Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle, je suis le frère Paul Adrien, prêtre religieux dominicain, et aujourd'hui je vous introduis dans la grande semaine, la semaine sainte, le dimanche des Rameaux. Alors, en remarque introductive, trois petites choses à savoir sur la semaine sainte, et puis ensuite nous parlerons de l'évangile du jour. Commençons par le dimanche des rameaux, puisque c'est aujourd'hui. La tradition est d'amener des rameaux à l'église. Si vous êtes dans le nord, ce sera du buis. Si vous êtes dans le sud, ce sera peut-être ou bien des branches d'olivier, ou bien si vous êtes vraiment dans le sud, des branches de palmiers. Mais en tout cas, des branches d'arbres. Et la coutume veut que l'on vienne avec ses branches à la messe et que l'on fasse semblant de rejouer la scène où Jésus monta à Jérusalem sur un ânon tandis que la foule l'ovationnait avec des branches d'arbres. Le prêtre va bénir ses rameaux et vous allez pouvoir les rapporter chez lui. La coutume, c'est de les mettre à un endroit dans sa maison. Moi, généralement, je les mets derrière un crucifix. Ça vient bénir la maison avec le parfum de la semaine sainte. Ce sont ces mêmes rameaux que plus tard, l'année d'après, on rapportera de manière quasi solennelle, là encore, au prêtre pour qu'il les brûle. Et c'est avec ces cendres-là qu'on fait le mercredi des cendres, le début du carême. La boucle est bouclée. Nous continuons la semaine sainte avec le Triduum pascal. La semaine sainte, c'est la dernière semaine de Jésus. Et dans cette dernière semaine, qui commence avec le dimanche des rameaux, Jésus, il lui reste une semaine à vivre. Il y a trois jours en particulier, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, qui forment un tout. C'est le paroxysme du carême, ce qu'on appelle le triduum, les trois jours de Pâques. Le jeudi saint, c'est le dernier repas de Jésus. Les chrétiens célèbrent en grande pompe l'institution de la messe, parce que le dernier repas de Jésus, c'est la première messe. Le vendredi saint, les chrétiens se souviennent que juste après cette première messe, Jésus a été arrêté, torturé, flagellé, mis en croix, mort. Et ça vous donne les célébrations du vendredi saint, par exemple le chemin de croix, par exemple la vénération de la croix, qui sont des offices poignants, extrêmement beaux. Et puis le samedi saint, qui est une journée un peu bâtarde, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien où on est, ce qui se passe. C'est Jésus qui est descendu aux enfers, dans le royaume des morts, et on est tout simplement là en train d'attendre qu'il ressuscite. Et ça, ce sera fêté à la vigile de Pâques, dans la nuit du samedi au dimanche. Alors, mes conseils pour vivre dans les règles de l'art maintenant, cette semaine sainte. D'abord, venir avec des rameaux pour le dimanche des rameaux aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Généralement, les prêtres en donnent au début de la messe, pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir chez eux. Ensuite, la coutume est, jeudi saint, d'aller à la messe qu'on appelle la Sainte Cène, pour assister à cette grande messe, la première messe. Le rite, la coutume, est de voir le prêtre qui lave le pied de 12 fidèles. Le vendredi saint, si vous aviez une chose à faire, ce serait le chemin de croix. C'est à la fois une balade, parfois même en plein air, et en même temps, c'est extrêmement émouvant. Le samedi saint, quand on ne sait pas exactement quoi faire, c'est très simple. En fait, c'est là où on va se confesser. On va se confesser pour terminer en beauté le carême et pour se préparer à célébrer Pâques d'un cœur pur. Donc vous mettez tout ça dans un coin de votre tête. Vous avez lundi, mardi, mercredi, il se passe pas grand chose de particulier, mais en tout cas, appelez votre paroisse pour connaître tous les horaires des célébrations. Et même pour ceux qui veulent aller encore plus loin, regardez si autour de vous, pour le Triduum pascal, il n'y a pas de proposer ce qu'on appelle l'office des ténèbres. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Et maintenant, nous passons à la lecture du jour, l'Évangile, le grand récit de la Passion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 23. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Et ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. » D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grand prix, réclamant qu'il soit crucifié, et leur cri s'amplifiait. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous ». Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit « le crâne » ou « calvaire », là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, « souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus, puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir le corps, comment il avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Le dimanche des rameaux, Jésus qui monte sur un âne à Jérusalem et qui est acclamé par la foule comme un roi. Ce qui nous offre l'occasion de réfléchir sur ce qu'est le véritable pouvoir. Dans la Bible, le pouvoir d'abord n'est pas associé à un âne, mais à un cheval. C'était la pratique dans l'Antiquité. Le cheval était la première arme de guerre. Si vous voulez, c'était l'ancêtre des chars de combat. C'était les chevaux de combat. Ce qui vous explique que, par exemple, dans l'Apocalypse, il est question des cavaliers de l'Apocalypse. Le cheval beige, le cheval vert, le cheval noir, qui apporte tantôt la peste, tantôt la famine. Le cheval, c'est l'image du pouvoir, de l'autorité et de la violence. Ce qui explique que la première caractéristique de la royauté dans l'Ancien Testament, ce sont les chevaux. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on compte le nombre de chevaux que Salomon possédait dans ses étables, ce qui donnait une indication de sa puissance armée. C'est ainsi encore que les prophètes disaient « Attention aux rois, ils vont essayer de multiplier les chevaux ». Et derrière, vous allez avoir une lente pédagogie de la Bible pour essayer de remplacer le cheval par un âne. Par exemple, ça commence avec Saül. Souvenez-vous, Saül, c'était le tout premier roi juif. Ça s'est mal passé parce qu'à la fin de sa vie, Saül est devenu fou, violent et sanguinaire. N'empêche qu'au début, il fait son entrée en scène en cherchant des ânesses que son père avait égarées. Et voyant un homme qui cherchait des ânes, Samuel l'avait sacré roi. Saül est devenu le premier roi d'Israël. Et dès le début, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi, les ânes vont commencer à être associés à la royauté. Absalom, pour montrer qu'il a des prétentions royales, va essayer de monter sur un âne. Salomon, quand il se fera désigner roi par David son père, montera aussi sur un âne. Et cette fois-ci, l'âne vous montre une autre conception du pouvoir. Parce que l'âne, c'est un animal modeste. Alors à l'époque, ça coûtait cher. Mais n'empêche qu'il était utilisé par des gens ordinaires pour des travaux quotidiens. Ce qui veut dire que l'âne, en fait, symbolise l'humilité et la vie simple, opposée à la grandeur mondaine, à l'ambition, au désir de conquête. C'est l'image du service, ce qui vous explique que le véritable pouvoir commence dans l'humble service quotidien. On appellera ça plus tard la sainteté ordinaire. Celui-là est vraiment roi qui sait diriger les affaires de sa maison. Humilité, service quotidien, mais aussi patience et obéissance. Alors pour nous, c'est peut-être moins évident parce qu'un âne est associé au fait d'être têtu. Mais n'empêche qu'un âne, c'est aussi quelqu'un qui ne se vante pas. Normalement, un âne, ça ne fait pas trop de bruit. Et quand on s'en occupe bien, il a beau avoir son petit caractère, il travaille, il est patient, il est obéissant. C'est le symbole de la mission qui est portée sans bruit. C'est le symbole de la persévérance. Voilà, et c'est pas tout à fait un hasard si dans la crèche, il y a un âne et un bœuf, le symbole de la vie quotidienne, du travail, de la mission. C'est pas tout à fait un hasard non plus si Marie, en se rendant à Bethléem pour accoucher, était probablement portée par un âne. Ce que Dieu choisit, c'est pas ce qui brille, mais ce qui sert. Et le véritable pouvoir se situe dans le service. C'est ce que vous dira un jour Jésus. Celui qui veut être grand parmi vous sera le plus petit. Celui qui veut être votre maître sera votre esclave. D'ailleurs, cette parole dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est exactement ce qui précède le dimanche des rameaux où Jésus monte sur un âne. C'est le grand renversement messianique. Le cheval, symbole de pouvoir, de puissance, qui devient un âne, symbole de service. Et Dieu vous dit qu'elle se situe là, la véritable autorité. Voici ton roi qui vient vers toi, doux et humble de cœur, monté sur un âne, le petit d'un ânon. Ouais, bah derrière ça, en fait, vous avez toute l'histoire de la royauté, depuis les grands rois conquérants de l'Antiquité qui étaient à cheval, jusqu'à Saül qui avait commencé à mettre un roi, pour ensuite arriver jusqu'à Zacharie, et enfin Jésus, véritable roi qui monte sur un âne. D'ailleurs, il y a une ânesse, et il y a un ânon. Alors, il y a une petite différence entre l'ânesse et l'ânon. L'ânesse, c'est celle qui a déjà été domestiquée, qui a déjà porté un joug, qui a déjà labouré. L'ânon, lui, n'est pas encore domestiqué, il n'a pas encore servi. Et pour les pères de l'Église, c'était là une image des Juifs et des nations païennes. Parce que les nations païennes ne sont pas sous le joug de la loi, tandis que les Juifs, eux, étaient sous le joug de la loi, la Torah, et donc les uns sont symbolisés par l'ânon, les autres par l'ânesse. On raconte même que Jésus aurait commencé par s'asseoir sur l'ânesse, parce qu'il était d'abord envoyé prêcher aux Juifs, pour ensuite, en arrivant à Jérusalem, monter sur un ânon, symbole de l'ouverture du christianisme aux nations païennes. Bon, et ben ça, hein, ça vous donne le dimanche des rameaux. Alors pour une fois, je vous ai pas parlé des rameaux, je vous ai pas parlé de ce cri d'Hosanna, je voulais aborder par un autre angle, un angle plus animalier, mais qui nous pose la question, est-ce que nous préférons monter sur des chevaux ou est-ce que nous préférons monter sur des ânes, même s'ils sont têtus? Il y a tout un programme de vie derrière, et Jésus vous dit, il y a tout un programme politique. Et bien voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine sainte. À très bientôt pour Pâques la semaine prochaine. D'ici là, bonne fin de carême tout le monde.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.